Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cette semaine, nous allons aborder le sujet de l'IA en milieu urbain. Comment les villes qui utilisent des dispositifs numériques, des villes parfois appelées Smart City, se servent de l'intelligence artificielle. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. C'est Parlez-moi d'IA, nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous les aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune-au-singulier.fm, sur sa superbe app Android et iPhone où vous avez les directs et les replays, et bien sûr sur la bande FM à Paris 93.1, le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée. Comme d'habitude, vos likes, étoiles, commentaires sont nos seules récompenses. Cela manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler les algorithmes. Si vous nous écoutez depuis LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter. Comme ça, vous pourrez tout simplement savoir quand la prochaine émission va sortir. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et repartager le post. C'est une manière très efficace et facile de propager cette émission encore plus loin. Merci Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Merci Olivier Gréco de nous donner cette possibilité sur l'antenne de Cause Commune. Alors, IA et ville intelligente, ville durable, font-elles tout mon ménage ? On a eu tendance à facilement associer Smart City à ville de la surveillance. Peut-on imaginer utiliser des dispositifs techniques et numériques en gardant une certaine éthique et en produisant ou en utilisant des données juste nécessaires à certaines fonctions qui pourraient juste être améliorées pour le bon fonctionnement d'une ville et pour l'information des habitants ? Pour nous aider à répondre à ces questions, notre invité de la semaine a juste fait le tour du monde en 6 mois dans 13 villes et il a rencontré plus de 130 acteurs de la ville smart et de l'IA. Il en est revenu avec une vision très complète qu'il a synthétisée avec d'autres contributeurs dans plusieurs rapports, dont Urban AI, le rapport majeur de ce tour du monde. Il a également des convictions et des pratiques très intéressantes pour rendre visibles les données de la ville à travers des dispositifs plutôt low-tech. Il est désormais la tête du think tank qui s'appelle tout simplement Urban AI. Bonjour Hubert Béroche.
Bonjour Jean-Philippe.
Merci d'être avec nous dans le studio de Cause Commune ce matin en cette heure matinale. Alors, parlez-moi d'IA Hubert. Nos villes sont-elles rentrées dans l'ère des IA urbaines ? Et d'abord, c'est quoi l'IA urbaine ?
Oui, alors en effet, je vais essayer de vous parler d'IA urbaine pendant cette émission. Qu'est-ce que c'est qu'une IA urbaine ? Très simplement, on pourrait dire que c'est une intelligence artificielle qui apprend à partir de données urbaines et qui est déployée en ville. Ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, au début, ces IA, elles étaient d'abord encastrées dans des gros projets de villes intelligentes, dans des gros projets de Smart City, et que progressivement, elles ont commencé à proliférer, se diversifier, et donc qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'IA dans les villes qui sont déployées par différents acteurs. Et alors, sur notre définition des IA urbaines, on a essayé quand même de se dire quelles sont les caractéristiques communes de toutes ces IA qui prolifèrent, qui se diversifient, qu'on voit et qui sont déployées par différents acteurs. On en a en fait caractérisé trois des caractéristiques. La première, c'est que ce sont des IA qui sont hybrides. Plus précisément, elles ont une matérialité qu'on aime à appeler infraordinaire, c'est-à-dire que le capteur, le véhicule connecté, voire semi-autonome, le drone, alors ce ne sera pas le cas en France, mais par exemple en Chine, enfin toutes ces interfaces-là, vous les voyez dans votre vie quotidienne. La deuxième chose, c'est que ce sont des IA qui sont politiques et politisées. Politiques parce qu'elles sont soumises à des réglementations locales, hein, très territorialisées. Enfin, elles sont dans un entrelacement de réglementations. Parfois, on parle de AI localism pour décrire ça. Mmh. Et aussi politisées parce que, peut-être qu'on en parlera, mais en fait, ces IA, elles sont absolument pas neutres. C'est pas que des outils comme on voudrait nous le faire croire.
Elles ont des objectifs.
Voilà. Et plus que des objectifs, elles ont même parfois, en fait, des valeurs. C'est-à-dire qu'elles véhiculent une certaine vision du monde et une certaine manière de faire société. Et puis la dernière chose, c'est qu'en fait, ces IA, elles s'appliquent à un environnement complexe qui est celui de la ville. Et ça, on aime à dire en effet que la ville, c'est un système c'est un système complexe et ça a l'air de rien, mais c'est important pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, ces IA, ça change leur manière d'être en espace urbain. Un exemple très concret, c'est la voiture autonome. La voiture autonome, peut-être qu'on en aura sur des autoroutes, dans les villes, c'est moins sûr.
Hein, oui. Effectivement, on se pose de plus en plus la question de certaines des technologies qu'on imaginait il y a encore quoi, 5 ans. Aujourd'hui, c'est... Est-ce que c'est un peu la nouvelle manière de dire Smart City, Urban AI ? Est-ce que c'est un peu la Smart City n'a plus trop la cote, parce que voilà, ça c'est synonyme de débauche de capteurs, de surproduction de données souvent fermées, de surveillance, d'high-tech. Est-ce que finalement, est-ce que l'Urban AI va pouvoir sauver la Smart City ?
Alors non, nous on veut pas vraiment sauver la Smart City. J'arrive pas jusqu'à dire qu'on veut l'enterrer, mais en tout cas, quand on a proposé ce concept d'IA urbaine, et merci de poser cette question parce qu'en fait derrière il n'y a pas qu'une définition pragmatique, il y a aussi une vision. Ouais. Et ce qui est important dans IA urbaine ou Urban AI, c'est presque plus le urbain que IA.
Ouais.
Et peut-être très rapidement, nous, ce qui nous a intéressé, on s'est inspiré des travaux d'une sociologue qui s'appelle Saskia Sassen. On a la chance de l'avoir dans notre comité scientifique. Et Saskia Sassen, très tôt en 2011-2012, quand on était dans la hype de la Smart City, elle a dit là, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'en fait, on est en train de considérer la ville comme un ordinateur. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait urbaniser la technologie plutôt que d'essayer de rendre smart la ville. Et donc nous, c'est ça qu'on essaye de faire. Et c'est pour ça qu'on parle d'IA urbaine, parce que ces intelligences artificielles, on essaye de les territorialiser, de les socialiser, de les urbaniser.
D'accord, très bien. Donc, du coup, vous avez rencontré combien de personnes pendant ces 6 mois ? Avec quel type de profil ?
Donc, j'avais rencontré plus de 130 personnes. Le but, c'était il y a 4 ans. On parlait pas d'ailleurs d'IA urbaine à ce moment-là. Le concept a émergé pendant ce tour du monde. Et il y avait plusieurs typologies d'acteurs. Il y avait des chercheurs, donc des acteurs académiques. Il y avait le secteur privé, grandes entreprises, Google, IBM, start-up, entreprises intermédiaires. Et il y avait des villes et administrations publiques.
Et ça vous a donné un peu une vision un peu panoptique de tout le numérique dans la ville, avec du coup des nouvelles convictions un peu fortes entre ce qui était en train de se faire, la Smart City justement, qui était beaucoup mis en avant, qui était vendu par les grands du secteur, et finalement ça reposait la question de l'objectif, c'est ça ?
Exactement, ça a été vraiment une sorte de voyage intellectuel assez puissant. J'y suis allé avec une approche très technosolutionniste. Ma question, entre guillemets, presque ma question de recherche, c'était comment l'IA peut nous aider à rendre les villes durables ? Comment l'IA va presque sauver les villes ? Donc j'étais un peu biaisé, et à ma grande surprise, très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, là, il y avait une sorte de mythe technosolutionniste, qu'il y avait un problème intrinsèque à la Smart City, et qu'il y a quelque chose qui allait pas. Je m'en suis rendu compte de manière intellectuelle, mais aussi en allant sur le terrain. Parce qu'en allant sur le terrain, je me suis rendu compte que déjà, il n'y avait pas de Smart City. C'est-à-dire que c'est du marketing.
C'est un beau marketing.
Voilà, c'est un beau marketing. Toutes les villes dans lesquelles je suis allé, il n'y a pas de ville intelligente. Quand on va sur le terrain, c'est pas si intelligent que ça. Et puis les chercheurs que je rencontrais me disaient, les entreprises aussi, mais là, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, il y a eu d'abord une première phase de constat, de diagnostic, où je me suis rendu compte que la Smart City, c'était un mythe et qu'en fait, ça ne fonctionnait pas.
Est-ce qu'on n'était pas en train de construire un peu la même ville partout dans le monde, avec la même méthode, les mêmes technos, et justement, on gommait le côté particulier de chacune des villes, quoi, l'identité, les valeurs.
Absolument, absolument. Et alors, pourquoi ça ? Parce que je m'étais aussi posé cette question, parce qu'on était dans une logique très business. C'est-à-dire que quand on regarde la naissance de la Smart City, certes, ça repose sur des imaginaires cybernétiques, sur des corpus de recherche, mais c'est quand même des acteurs comme IBM qui, dans les années 2008, dans une phase de crise économique, disent « Ah bah nous, on va aller sur un nouveau marché qui est celui des villes et on va vendre des technologies. » Et donc, ils y vont avec une approche très business, donc plusieurs principes très business comme celui de la scalabilité, du passage à l'échelle. Et donc, on est dans une logique de rentabilité qui implique de déployer les mêmes technologies de manière non contextuelle, non située, non territorialisée.
Ouais, j'ai investi dans le développement d'un logiciel, je veux pouvoir le déployer à différents endroits quasiment de la même manière, en gommant justement les spécificités.
Exactement.
D'accord. Et donc ça, c'était très fort dans votre tour du monde. Mais alors du coup, est-ce que ça répond quand même à la question ? Est-ce qu'il y a des solutions numériques et du coup IA qui nous permettraient quand même de construire une ville plus durable, plus vivable, plus... Est-ce qu'il y avait vous avez rencontré des choses et ça vous a donné des pistes ?
Alors absolument. Ce qui est intéressant, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait cette troisième définition, on pourrait dire, de l'IA urbaine, c'est qu'elle s'applique sur un environnement complexe. Et la force de l'IA, ça va être capable d'appréhender, de synthétiser pas mal d'informations sur des environnements complexes. Et la ville fait partie des environnements complexes. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser de l'IA pour mieux appréhender des mouvements énergétiques, pour mieux appréhender, par exemple, de la biodiversité urbaine. Alors, il y a pléthore d'exemples. Je me souviens, quand j'étais allé à Londres, par exemple, une chercheuse qui s'appelle Alison Fairbrass, qui utilisait du machine learning sur des capteurs acoustiques pour faire de la détection de mouvements de population de chauves-souris dans le parc Elizabeth II.
D'accord.
Et donc là, on voit vraiment un exemple assez concret pour cartographier en temps réel de la biodiversité biodiversité urbaine, en inférer l'état de santé d'autres espèces, etc. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est à Singapour, ils utilisent des drones pour faire de l'inspection en temps réel sur des bâtiments. Et ça fonctionne particulièrement bien dans des villes sismiques où il y a régulièrement justement des dommages qui nécessitent de refaire une passe de maintenance.
Et est-ce que vous avez rencontré des solutions où on avait déployé par exemple une série de capteurs pour une fonction et la donnée qui était produite éventuellement elle a servi dans d'autres situations? Est-ce que c'est des choses qu'on rencontre finalement? C'est-à-dire qu'on part sur un principe de projet numérique Smart City, voilà, je veux mesurer ça, puis in fine, la donnée qui est produite, elle peut aussi servir à d'autres choses, et c'est un peu l'inventivité de ceux qui vont se mettre à étudier la donnée qui...
C'est hyper intéressant comme question. Alors, j'ai vu l'opposé, c'est-à-dire beaucoup de données qui ont été captées, on savait pas quoi en faire. Ça, je l'ai vu.
C'est pour ça que voilà. Je ne pose même pas la question, parce qu'effectivement...
En revanche, ce que j'ai vu aussi, peut-être pour répondre à votre question, dans des projets privés, c'est assez dur de pouvoir vous le dire.
Ouais.
Par contre, ce qui fonctionne très bien sur ce principe-là, c'est l'open data.
Oui.
C'est-à-dire des villes qui libèrent l'information, parfois de manière orientée et stratégique, justement pour susciter une innovation sur des sujets précis.
D'accord. Bon, écoutez, ça pose bien la situation. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale pour ensuite finalement voir comment ces nouvelles propositions, ces conclusions de Tour du Monde, vous partiez visiter la Smart City et puis vous êtes revenu avec une autre vision de la ville et de l'usage du numérique pour la ville. On verra ça juste après, donc Sam Fisher. Sam Fisher qui chante avec Anne-Marie. Et en fait, on reste quand même dans le contexte puisque il nous chante The City Remix. Et je fais du coup une infinité à Garlaban parce que c'est encore une balade sur laquelle je suis tombé. Et je pense qu'en ce moment, j'ai besoin de balade. The city's gonna break my heart. The city's gonna love me, then leave me alone. The city's got me chasing stars. It's been a couple months since I felt like I'm home. Am I getting closer than I'm with where I belong? The city's gonna break my heart. She's always gonna break your heart. Oh, oh, oh no, no. Yeah. Monday through Friday, I don't do so well. I wanna call you, but I stop myself. And you're the only one I wanna run to, yeah. Cause I've been drinking lately, so I forget. Wondering what this place will give me next. Cause all I see are lonely people with broken hearts, yeah. Oh, the city's gonna break my heart. The city's gonna love me, then leave me alone. The city's got me chasing stars. It's been a couple months since I felt like I'm home. Getting closer to knowing where I belong. The city's gonna break my heart.
It's gonna break.
She's always gonna break your heart. Break your heart. Ooh, 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 ooh. Merci Sam Fischer, vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à la question de l'intelligence artificielle urbaine avec Hubert Béroche, et on se posait la question de savoir voilà, comment l'IA urbaine finalement elle peut produire autre chose qu'une ville de la surveillance. On y arrive doucement là, du coup, donc vous êtes parti avec une vision sur ce tour du monde, et puis depuis toutes vos réflexions, et aujourd'hui vous êtes sur une autre façon de faire les choses. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut sauver dans la vision initiale de la Smart City qui pourrait quand même nous aider aujourd'hui à avoir des villes avec du numérique, mais du numérique responsable, du numérique éthique? Qu'est-ce que vous sauveriez aujourd'hui?
Ce qu'il y avait d'intéressant, en tout cas quand même, ce qui est sûr, c'était cette volonté d'utiliser des nouvelles technologies pour mieux appréhender le fonctionnement d'une ville, de comprendre que c'est quelque chose de très complexe et qu'on peut utiliser des technologies pour mieux cerner des comportements, pour mieux cerner des mouvements économiques, etc., etc. Ça, c'était, je pense, primordial, fondamental et extrêmement intéressant. Là, on peut faire mieux, c'est dans la redistribution de cette information et dans l'implication des citoyens dans l'architecture de cette ville intelligente.
Donc typiquement, l'open data par exemple ?
L'open data par exemple, ça en fait partie. Je sais que vous receviez la semaine dernière un autre Uber où vous parliez des registres des IA.
Oui.
La registre des IA, ça en fait partie. Et nous, on a même envie de dire, on peut même aller encore plus loin. Parce que la ville, c'est un espace physique, concret, urbain, matériel, territorialisé. Et donc, ces données-là, ces informations-là, elles devraient être territorialisées dans la ville. Elles devraient être incarnées, elles devraient être accessibles aux citoyens. Donc, plus on arrive à rendre toute cette intelligence disponible pour le citadin, la rendre actionnable, interactive, et plus, je pense, on arrivera à aller vers quelque chose d'urbain.
Et du coup, il faut peut-être aussi essayer de rendre visibles ces captations de données.
Absolument. Donc, alors ça, c'est hyper intéressant. On voit plusieurs initiatives qui sont faites pour essayer de rendre visibles les capteurs. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte que l'un des problèmes de la Smart City, c'est qu'en fait, elle repose sur des infrastructures invisibles que sont les capteurs. Et donc, on est dans une logique, je vais me permettre d'en parler parce que c'est un philosophe français, de panoptique. Ouais. C'est ce que disait Michel Foucault en s'inspirant de Bentham, c'est-à-dire qu'on voit sans être vu. Et donc, comment on arrive à casser ça ? En rendant visibles les infrastructures. Et donc, en effet, on a des initiatives comme DTPR qui essayent de rendre visible la captation. On a le
Comment ils rendent visible la captation, du coup?
Ils ont créé une signalétique.
Ouais.
Et alors, c'est pas du tout si évident que ça. Donc, ils étaient avant, en fait, chez Sidewalk Labs. Sidewalk Labs, c'est une filiale de Google qui a, de manière retentissante, échoué à créer une ville intelligente.
À Toronto,
absolument. Justement, parce qu'ils avaient pas assez impliquer toutes les parties prenantes, ils étaient finalement pas suffisamment dans une logique urbaine.
Ils étaient dans leur bulle d'ingénieurs, ils avaient envie de faire fonctionner une ville, mais sans en parler trop aux habitants et sans les impliquer dans le projet.
C'est exactement ça.
Ouais.
Il y a quand même eu plusieurs bonnes idées au sein de Sidewalk Labs, parce qu'il y avait des gens brillants, dont Jacqueline Lu, qui est la fondatrice de DTPR, et ils avaient fait des ateliers avec des citoyens, et ils avaient identifié à ce moment-là que l'une des problématiques de la ville intelligente, c'était l'invisibilité des capteurs.
D'accord.
Et donc, la solution qu'ils ont trouvée, c'est créons une signalétique urbaine qui va pouvoir afficher où sont des capteurs, qu'est-ce qui capte de l'information, pourquoi et dans quel but. Et donc, c'est ça, en fait, DTPR, et ça a vocation, justement, à essayer de rendre visible cette captation qui, jusqu'à aujourd'hui, est principalement invisibilisée.
J'ai vu aussi que vous parliez, vous mettiez en avant le projet The Transparent Crowd Monitoring Camera, qui permet de partager en direct la donnée qui est captée justement par la caméra pour vraiment montrer qu'est-ce que la caméra récupère comme données.
Exactement, c'est un super projet de Responsible Sensing Lab.
Comment ça marche ?
Qui est basé à Amsterdam. Donc ils sont toujours excellents, les Pays-Bas, sur ces enjeux d'éthique. Et donc ils se sont dit, en fait, cette information, en plus de la rediriger dans un hyperviseur ou dans un centre d'expertise, pourquoi ne pas la rendre disponible auprès du grand public ? Pourquoi d'abord dans une logique de transparence, c'est-à-dire que on montre qu'en fait ce capteur-là, il essaye pas de vous fliquer ou il essaye pas d'avoir des informations ultra personnelles sur vous. Il fait du crowd monitoring, c'est-à-dire il essaye de voir en fait de faire du calcul de foule et de voir un peu comment la foule se comporte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on crée vraiment une ville augmentée. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a voulu utiliser le smartphone comme interface entre l'utilisateur et la ville intelligente. Et là, on est en train de se dire, peut-être qu'on peut utiliser la ville. Peut-être que cette donnée-là, cette information-là, ces réseaux-là, on peut utiliser l'espace urbain comme interface avec les citadins.
Et c'est pas parce qu'on a une caméra qu'on est tout de suite en train de faire de la captation d'images haute définition, de la reconnaissance faciale?
Absolument. En France, on a l'exemple de Upcity. UpCity, c'est des caméras avec de l'image basse résolution, justement pour pouvoir contourner cette problématique by design de la reconnaissance faciale. Donc on peut en effet
faire... Le flou by design, c'est le créneau d'UpCity.
Exactement.
Et d'ailleurs, pour citer un peu d'autres acteurs de ce même domaine, on peut citer Wintix, qu'on a reçu ici dans une des premières émissions de Parlez-moi d'IA, et qui vient d'ailleurs de remporter, parce que c'était une des questions de la première émission, qui vient de remporter un important appel d'offres pour la sécurisation des JO et qui ne fait pas de reconnaissance faciale, qui fait quand même de la détection de d'événements particuliers et qui va du coup sécuriser les gares d'Île-de-France pendant les JO. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dispositif que vous avez en tête qui rend visible cette donnée urbaine? Est-ce que vous avez d'autres exemples en tête qui pourraient être intéressants de mettre en pratique un peu partout dans les villes qui se veulent un peu numériques?
Alors, nous, on travaille en ce moment avec la ville de Bordeaux, enfin Bordeaux Métropole et la ville de Noisy-le-Grand. Sur Bordeaux, on travaille à rendre tangibles des données relatives à la location d'îlots de fraîcheur pour l'été prochain.
D'accord.
Donc ça, c'est des informations que va avoir une ville, en généralement qu'on va réserver à des urbanistes pour mieux aménager un territoire. Et on s'est dit, pourquoi pas ces informations-là, qui sont quand même assez importantes quand il fait très chaud, surtout qu'on sait que d'une rue à une autre, peut y avoir un écart assez important, l'afficher, la rendre disponible vraiment dans cette logique de matérialiser la donnée. Quelque chose qui fonctionne assez bien aussi, c'est matérialiser des données énergétiques. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec la ville de Noisy-le-Grand. Pourquoi ? Parce qu'on sait que lorsqu'on a accès à cette information énergétique, on va pouvoir avoir un comportement plus vertueux. Donc, il y a aussi...
On comprend mieux quelles sont nos consommations et du coup, on les adapte parce qu'on on voit en direct finalement ce qu'on est en train de consommer.
Absolument.
C'est le principe du nudge, quoi, un peu de...
C'est ça. Et c'est qu'en fait, l'information oblige. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'éthique du regard. Et c'est aussi pour ça qu'on pousse pour rendre l'information disponible, parce que on pense profondément, mais en s'inspirant sur des travaux scientifiques, que lorsqu'on donne une information aux citoyens, ça crée un comportement. On peut plus faire comme si on savait pas. Si on vous dit, par exemple, que la Seine ou, disons, un autre espace d'eau extrêmement pollué, vous pouvez pas faire comme si vous étiez pas au courant.
Donc dans ce cas-là, il est partie prenante de ce qui se passe. Quoi.
Exactement.
C'est un peu loin du coup de l'idée de mettre des robots partout, d'automatiser la ville avec des véhicules autonomes, des robots qui serveurs, des robots concierges. Ça, vous le gardez dans votre ville numérique durable?
Moins, pas vraiment, parce qu'en fait, là, en effet, ce que vous décrivez, c'est une vision très servicielle de la ville. C'est-à-dire qu'on considère que la ville doit fournir des biens et des services urbains. Et c'est un peu sur cette vision-là très capitaliste, d'ailleurs plus que capitaliste, très servicielle, que s'est construite la Smart City. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, la ville, avant d'être un marché économique, c'est un espace social, c'est un espace urbain, c'est un territoire dans lequel se créent des histoires, se racontent des narratives, des récits, qu'elles soient personnelles, civilisationnelles ou nationales.
Alors, ce tour du monde, et puis maintenant, du coup, ce think tank Urban AI, il a amené aussi à produire de nouveaux rapports. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la géopolitique, du rapport de la géopolitique des Smart Cities que vous avez sorti il y a quelques mois maintenant?
Il y a quelques mois, absolument. C'est un travail que, à titre personnel, j'ai adoré faire, qui est assez intéressant. En fait, on s'est rendu compte que les technologies urbaines ont un rôle assez fondamental et de plus en plus important dans la géopolitique et dans le cadre de conflits internationaux. Alors, on le détaille dans le rapport, mais c'est cette idée de dire qu'on a une nouvelle géopolitique qui est en train d'émerger avec l'émergence d'acteurs non étatiques, de nouvelles modalités de conflits, de nouveaux technologies. Et en fait, il se trouve que dans ces conditions-là, les technologies urbaines jouent un rôle important de manière très intuitive ou même de manière un peu plus impactante. C'est ce qu'on peut voir avec le conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, où en ce moment, la guerre dans laquelle est impliqué Israël. On voit qu'en fait, il y a une urbanisation de la guerre, et donc que les technologies urbaines, que ce soit des drones, des données de géolocalisation, jouent un rôle de plus en plus important.
Ouais.
Et donc, pour ces raisons-là, en fait, on a pu constater que des acteurs internationaux sont amenés à déployer de plus en plus de moyens pour devenir des leaders dans l'exportation et le développement de technologies urbaines. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Europe. Et on a pu voir en particulier que les États-Unis et la Chine développent ce qu'on appelle des récits stratégiques, c'est-à-dire des imaginaires, parce qu'il n'y a rien de mieux pour vendre une technologie.
Bah oui, storytelling.
Storytelling, exactement. Et donc, pour la faire très courte, le storytelling des Américains, c'est de vous dire achetez nos technologies et ça vous permettra d'avoir accès à des biens et services, d'optimiser la ville et de réduire les coûts de fonctionnement.
En gros, c'est un storytelling qui fonctionnait plutôt bien jusqu'en 2020.
Qui parle pas beaucoup de surveillance, du coup?
Qui parle pas de surveillance, mais qui repose quand même sur des technologies de surveillance.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a quand même un capital...
De sûreté, de mise en sûreté, de... C'est ça.
Alors ça, c'est plus une narrative chinoise, justement.
Ah, d'accord, pardon.
C'est-à-dire qu'en effet, les Chinois, ils sont dans une logique de safe city.
Ouais.
Et eux, ils vont vous dire, alors, enfin, le parti communiste chinois, en instrumentalisant des entreprises comme Huawei, ils vont vous dire, achetez nos technologies, ça va permettre d'amener l'ordre social et l'harmonie politique. Et il se trouve que ça fonctionne très bien depuis 2020. On a de plus en plus de pays, de villes en Amérique du Sud, en Afrique, même en Europe, très proche de nos frontières, même en France, qui sont intéressés par ce récit-là. Donc, il y a d'une part un récit serviciel qui est américain, d'autre part un récit sécuritaire qui est chinois, et ce pourquoi on essaye de militer, c'est un récit européen.
Qu'est-ce qui dirait le récit européen? Alors, du coup, c'est quoi notre storytelling à nous?
Alors, ce qu'on avait pu constater, c'est que justement, il manque encore, on va dire, un storytelling très fort, mais on peut quand même identifier des composantes, peut-être trois composantes.
Ouais.
Un, la privacy, la vie privée, quelque chose d'important. Et évidemment, quand on est européen, ça remonte peut-être à cette volonté de cultiver un jardin secret, etc. La participation citoyenne.
Qui est beaucoup aussi l'influence française. Des lois très anciennes sur les libertés et les protection des données personnelles.
Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en fait, finalement, il y a peut-être même des débats qui ne devraient pas avoir lieu. Enfin, des débats qui sont sur la reconnaissance faciale, c'est des débats qu'on importe. Et si on s'en réfère un peu à notre histoire, aux travaux qui ont été faits, enfin par les Lumières, aux autres références, c'est pas quelque chose qui devrait même nous toucher, ça devrait même pas avoir lieu cette question-là.
Ouais.
Mais bon, en tout cas, on l'importe en important d'autres technologies et d'autres cultures.
Je vous ai coupé, pardon. Donc transparence, c'est pas où
privacy, exactement, vie privée.
Pardon.
Ensuite, on a la participation citoyenne, c'est-à-dire cette idée de considérer que la ville c'est un espace co-construit, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, et enfin, il y a quelque chose de très fort qui est écologique, qui est une composante écologique. Et là, on le doit, faut aussi le reconnaître, beaucoup à l'Europe du Nord.
Oui. Hein,
et donc, sur ces sujets-là, on remarque qu'il y a vraiment une vraie volonté.
Ils sont moteurs.
Voilà, ils sont moteurs et il y a une volonté d'utiliser les technologies urbaines pour décarboner les villes et pour faire en sorte aussi de mieux appréhender le vivant sur les territoires.
D'accord. Mais du coup, alors, sur ce dernier point, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour convaincre qu'effectivement l'urban AI, les technos numériques peuvent aider justement à décarboner et peuvent nous aider dans le spectre de la ville durable. Est-ce qu'il y a vous avez des exemples de réalisations qui vont dans le bon sens comme ça?
C'est une question qui est extrêmement complexe parce que je m'étais rendu compte assez vite que souvent le risque c'est juste d'être dans une logique d'optimisation.
Ouais, ou généralisation de quelque chose qui est plus
exactement
plus local.
Exactement.
Ouais.
Et d'avoir en fait.
On retombe dans le même travers que le départ en fait.
C'est ça.
D'essayer et de scaler les projets.
De scaler et aussi parfois d'avoir des mots un peu trop faciles qu'on va utiliser comme l'optimisation. Moi je dis toujours méfiez-vous quand on vous dit juste on va optimiser votre ville et donc il y aura plus de problèmes d'émissions de CO2. Faites attention parce que en fait on sait depuis quelques années maintenant qu'il va y avoir par exemple des problèmes d'effet rebond.
Ouais.
Donc la voiture autonome ou le fait de mettre simplement des feux intelligents, c'est pas ce qui va réduire les émissions de CO2 en tout cas suffisamment d'un territoire. Donc il faut aller vers quelque chose qui est vraiment un changement de système. Il faut impliquer les citoyens, il faut essayer d'avoir la gouvernance la plus équilibrée, partagée possible vraiment repenser la manière dont on fait la ville en utilisant ou pas d'ailleurs de l'IA. C'est pas forcément nécessaire.
Ah oui, tout à fait. Donc du coup vous êtes un peu aussi partisan de ce qui peut être low tech ou un peu moins tech. Et vous essayez aussi de promouvoir ces solutions-là pour la ville?
Alors absolument, on travaille sur ce qu'on appelle des interfaces sensibles.
Ouais.
L'enjeu de ces interfaces sensibles, c'est d'incarner des données urbaines dans l'espace public. Et on a trois choses qu'on essaie de faire avec les interfaces sensibles, c'est les incarner de manière multisensorielle.
Ouais.
On peut en parler, mais c'est pour plein de raisons. Sans écran, surtout sans écran.
Ça, c'est un vrai gageur, oui.
Ça, voilà. Déjà, quand on fait sans écran, on se rend compte que ça va beaucoup mieux sur plein de sujets. Et puis, en effet, de manière low-tech.
Ouais.
De manière low-tech, mais autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire écologique d'être dans une frugalité des ressources, d'utiliser le moins de... Enfin voilà, de manière assez économique, on va dire. Et philosophique, c'est-à-dire essayer de créer de la convivialité autour de ces interfaces. Donc c'est vraiment ce vers quoi on essaye d'œuvrer.
Super, magnifique conclusion pour conclure sur l'émission. Merci beaucoup pour tout ce partage. On renvoie vers votre site urbanai.fr où il y a tous les rapports, où il y a toutes les futures actualités. Également sur vos sites et vos comptes LinkedIn qui sont très souvent alimentés par l'actualité et qui est foisonnante dans ce sujet-là. Du coup, merci beaucoup Hubert pour ce partage. On reste sur 93.1 et sur Cause Commune, parce que c'est bien sûr qu'il y a parlé moi d'IA, mais globalement Cause Commune, ça peut aiguiser votre curiosité. Il y a de nombreux et de nombreuses émissions et de nombreux programmes. Bon, Rayon Libre, bien sûr, je peux pas ne pas en parler, Jérôme, libre à toi. Et puis les lapsus de l'actu par exemple, mais allez faire un tour sur le site de Cause Commune, et puis laissez-vous surprendre par nos programmes et par les émissions de nos collègues. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci Jean-Philippe.